Bonjour, je m'appelle Nesh. Je suis membre du comité d'administration et du comité d'animation des métairies depuis cette année. On a travaillé avec Annelise et Carole sur la programmation et puis aussi les autres membres, la programmation de cette deuxième édition de Vienne en Goguette. Et il nous a semblé intéressant voilà, de créer des espaces de discussion, d'échange, de rencontres autour de sujets qui ont attrait à la transition écologique. Le premier apéro parlant était plutôt dédié au jardin partagé. On a eu la belle surprise d'avoir vraiment beaucoup de monde et différents projets exprimés et des rencontres et peut-être des projets en commun à venir. Et pour ce second apéro parlant, on n'a pas eu à réfléchir beaucoup. On s'est dit, mais quelle autre initiative qui porte des valeurs d'entraide, de solidarité, enfin des valeurs voilà, qui mettent l'humain au centre. Et donc on s'est vite dirigé vers l'économie sociale et solidaire, et notamment quatre structures. Alors je ne sais pas si on peut dire, mais quatre initiatives, quatre projets forts dans le Blésois. Arnaud pour les greniers de Vineuil, qui est juste ici. Nicolas pour la coopérative Artefact, Natacha Bazin pour l'autre bureau, et puis Cédric pour la ressourcerie. Voilà, quand on a dit ça, l'économie sociale et solidaire, moi je ne suis pas un expert du sujet, et je crois qu'en plus la définition, définir l'économie sociale et solidaire, c'est quand même un vaste sujet, puisque en fonction du statut, du cadre, est-ce que c'est une association, ça peut être une entreprise, ça peut être une coopérative, ça peut être, voilà. Il y a véritablement différents cas de figure. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, avant de présenter peut-être vos projets, c'est de donner chacun votre définition, avec votre recul et votre vécu aujourd'hui, de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Vous, nos chers... commencer par une définition. Moi, je ne saurais la dire parce que voilà, on est là aussi pour découvrir le collectif des métairies et puis ce projet de Vienne en Goguette, c'est d'aller à la rencontre de ces projets et de s'en enrichir. Qui souhaite commencer par donner sa définition? Arnaud? Oui, on va tous la donner, mais tiens, il faut bien que quelqu'un commence. Arnaud, je te sentais.
Moi, ce qui me vient à l'idée comme ça, c'est de penser aux autres, tout simplement. Enfin, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul et que s'il y a des collègues ou des activités différentes, c'est de réunir, c'est de rassembler et de penser aux autres. Voilà.
Une première définition.
Pour moi, l'économie sociale et solidaire, avant tout, c'est sa finalité. C'est-à-dire que c'est pas une économie qui a pour finalité du profit. C'est une économie dans laquelle la finalité est plus sociale, solidaire et basée sur des valeurs humaines.
Natacha a tout dit. Non mais c'est ça, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'on travaille, on crée de l'économie, on peut créer des emplois dans une finalité qui ne profite à personne individuellement. Ça profite à un collectif au minimum, voire ça peut être aussi une action d'intérêt général, de partage, comme le disait Arnaud. Et en fait, je crois que le principe de non-lucrativité individuelle, elle est super importante, peu importe la forme de nos structures.
Et Aurélia qui accompagne Arnaud aussi pour les greniers de Vineuil. Nicolas pour la coopérative Artefact.
Ouais, je vais parler, on va dire la coopérative. Alors déjà, voilà, je vais pouvoir en mettre une couche. Je suis complètement d'accord avec ce qui se dit. Il y a la question de la finalité, la solidarité, et puis effectivement le côté non lucratif individuel. Après, collectif, il peut être que bénéfique. Nous, dans la coopérative, on va plus parler de mutualisation de moyens, qu'ils soient matériels ou immatériels, en fait. On va pouvoir créer des boîtes à outils communes dans lesquelles chacun va pouvoir piocher. Donc ça peut être de la prestation intellectuelle, ça peut être la mise à disposition de matériel commun, ça peut être tout simplement des services rendus. Et tout n'est pas forcément passé par le monétaire aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi faire des choses qui ne se traduisent pas forcément par une facture ou un truc comme ça. Là, rapidement, comme ça, je pense à un truc où, par exemple, si on a un coopérateur qui tombe malade ou qui a une urgence, je dis ça parce que c'est déjà arrivé en fait, de pouvoir recréer par exemple un pot commun parce qu'il n'a pas pu par exemple faire une presta. Et du coup, bah, forcément, s'il ne fait pas la presta, il ne peut pas facturer. Du coup, ça fait une perte de chiffre d'affaires. Et du coup, comment on fait? Bah, on ne va pas le laisser ne pas pouvoir se payer pendant un mois. C'est, on en discute. Et est-ce qu'on vote un petit budget? Est-ce qu'on vote, est-ce qu'on ouvre une caisse commune? Et là, on va pouvoir commencer en fait, à éponger ce genre de problèmes qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur et quand souvent, même si nous, après, notre régime tend à affilier comme si on était au régime général.
Alors, Nicolas,
ouais.
Tu gardes ouais. le micro et je voudrais, je peux du coup, puisque tu rentres un peu dans le sujet de... Bah, Artefact, beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup aussi ne connaissent pas. Donc, en quelques mots,
si, on va faire rapide.
Avec tes mots, de nous dire ce qu'est cette coopérative Artefact.
Artefact, c'est une entreprise, c'est une SARL, qui a un mode de gouvernance qui est en scope, c'est-à-dire qu'on a un mode de gouvernance qui est horizontal. Ce qui fait qu'on va avoir des sociétaires, mais on a décidé, par exemple, de ne pas redistribuer de dividendes. Et donc après on a des gérants et ces gérants en fait ils peuvent être incarnés, on va incarner une gérance, c'est pas un chef qui va nous dire bon bah toi tu fais ça, non, on va avoir, moi par exemple je suis gérant d'Artefact, j'ai été fraîchement élu et je suis entrepreneur salarié associé, ça veut dire que je suis entrepreneur, je mène mon activité, donc je vends des vidéos, je fais du graphisme, je coordonne des projets, ça c'est mon activité principale. Et ça m'empêche pas d'être gérant et ça empêchera pas des gens d'être gérants dans un an, deux ans, trois ans et de pouvoir incarner cette fonction, et moi laisser la place en fait. Donc c'est ça en fait, on est une CAE, c'est une coopérative d'activité d'emploi, on accompagne des gens à tester leur activité d'entrepreneur, et si ça marche, après ils peuvent rejoindre la coopérative et devenir sociétaire, et tout ça sous un mode de gouvernance qui est horizontal. Donc ça, je ne dis pas que ce n'est pas chronophage, hein. Il y a des discussions, il y a des CEO, des comités d'orientation, des comités d'administration, on discute, on vote des budgets, on vote des statuts, on peut modifier des statuts, enfin, je veux dire, il y a vraiment une vie. Hein. Et vu qu'on est un peu nombreux maintenant, bah, c'est encore plus long, mais le truc c'est que c'est encore plus intéressant surtout, ça veut dire qu'on a des vrais projets. Et voilà, après on peut se retrouver avec des projets comme les métairies, où nous on s'est lancé là-dedans et on a signé le bail, puisqu'on s'est dit, bah ouais, ok, carrément, bah, c'est cool quoi. Voilà, pour la coopérative Artefact dans les grandes lignes.
Donc moi, j'ai entendu, voilà, dans les grandes lignes, donc Artefact, une SARL, un mode de gouvernance horizontale, et puis ensuite, toute la partie, le lien avec les coopérateurs, les différents coopérateurs. Donc un fonctionnement déjà extrêmement abouti, finalement, enfin, en construction aussi, puisque j'imagine que c'est un projet qui ne cesse d'évoluer et d'être amélioré d'une certaine manière dans son fonctionnement pour...
Ouais. On ne finit jamais de s'améliorer. En fait, bon, alors on a quand même dit, on va avoir 10 ans cette année. Donc ouais. Effectivement, il y en a qui ont essuyé les plâtres un peu avant, derrière. Quand même. Moi, je suis arrivé il y a 3-4 ans. C'est assez intéressant parce qu'on est, on peut dire que maintenant on est efficient, c'est-à-dire qu'on a quand même des recettes qui sont assez éprouvées, c'est clair, ça fonctionne. Mais vu que le nombre grandit quand même de coopérateurs, il faut tout le temps remettre en question des choses. Et c'est la question de la remise à plat. Donc rien n'est gagné pour autant, voilà, c'est un peu le paradoxe, mais c'est super du coup, parce qu'on réinvente tout le temps. Quoi.
Voilà, et justement, qu'est-ce que vous réinventez? Qu'est-ce que vous avez inventé vous, dans, justement sur ces modes de gouvernance qui sont très propres, finalement peut-être à votre fonctionnement, ou si ce n'est pas les modes de gouvernance, qu'est-ce qui est vraiment spécifique au fonctionnement d'Artefact?
Alors, je ne sais pas si on a des choses spécifiques par rapport aux autres CAE. Mm-hmm. Par contre, on peut décider de développer des chantiers. Là, par exemple, un des chantiers principaux qu'on a, c'est les risques liés au travail. On travaille beaucoup sur les risques psychosociaux en ce moment, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire que quand on fait des prestations, c'est qui est assuré, comment ça marche, comment on est exposé, c'est quoi la sécurité, et on s'en soucie maintenant de manière assez importante, parce qu'on se rend compte que c'est très important, et on décide de mener ce chantier-là. Après, d'un point de vue plus pragmatique, ça peut être juste, on fait peu de bénéfices, mais si on fait des bénéfices, comment on se les répartit? Tout simplement, ça peut être une vraie discussion. Quoi. Donc, par exemple, on a décidé d'en faire des résidences artistiques il y a quelques années. Donc on a fait des enveloppes d'une certaine somme par territoire, donc Orléans, parce qu'on est sur toute la région, on est même à Nantes un peu. Nantes, Orléans, Blois, Tours, et on a mis une somme. Et les coopérateurs en interne, ils ont participé, ils ont présenté des dossiers, il y a eu un vote à main levée par tous les autres coopérateurs. Et on a pu mener des résidences artistiques, par exemple. Voilà.
Merci Nicolas. Tu veux bien passer le micro peut-être à Arnaud pour les greniers de Vineuil. Arnaud, j'ai envie de te demander, les greniers de Vineuil, moi j'ai découvert il y a quelques mois ce projet, cette association.
C'est pas une association. C'est une société aussi. Hein,
d'accord.
C'est une SAS montée en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif.
Autant pour moi.
Avec maintenant un peu plus de 200 familles sociétaires. C'est même pas 200 sociétaires, c'est 200 familles, dont des collectivités, des associations, des entreprises. Et pour la plupart des sociétaires, des citoyens.
Ils se réunissent autour de quel projet ?
Alors, en fait, l'idée à la base, c'était de créer un outil pour les artisans, pour des artistes, pour des producteurs, pour tout ce qui se fait localement. Et toujours dans un but non lucratif, donc ça veut dire que un peu pareil, mais je pense qu'on est tous, c'est de l'économie sociale et solidaire.
Ça fait partie des valeurs de l'économie sociale
et solidaire. Si toutefois on faisait des bénéfices et de manière à redonner un outil où on se dit on en fait quoi, c'est pas de se répartir les dividendes, hein, c'est de faire évoluer le projet et puis de savoir où on le met, soit on accompagnera, parce que pour le moment, nous, c'est au tout début, donc on ne fait pas encore de bénéfices. Mais par contre, nous, on espère en faire de manière à justement pouvoir aider d'autres projets, d'autres apporter des outils en commun, enfin faire évoluer le projet, mais pas dans un but individuel.
Qu'est-ce que sont les greniers de Vineuil ?
Alors, les greniers de Vineuil, c'est, comme je disais, c'est un outil, c'est surtout un écosystème d'activité. Ou une passerelle, on peut appeler ça aussi une passerelle, où on souhaite informer les gens sur ce qui se passe localement. On souhaite informer les gens sur les entreprises qui existent localement. C'est en même temps, j'aime dire qu'on n'a rien inventé. On souhaite tout simplement recréer un lieu de vie, une auberge. Ouais. Enfin. Parce que là, on parle d'économie sociale et solidaire, mais finalement, est-ce qu'on invente des choses ? Ça revient, mais je pense que voilà, ça s'est fait à un moment donné. Il faut simplement peut-être...
C'est la question de l'institutionnalisation. Ouais. Faut trouver un autre mot ? Ouais. Mais c'est le mot que j'ai là, en tout cas. Charles, si tu as un autre mot en tête, on est preneur.
Réfléchis.
Alors, mais quelle forme ça prend aujourd'hui, les greniers de Vineuil?
Quelle forme ça prend? Ça prend que ça a été déjà, c'est parti d'un lieu, donc les greniers de Vineuil, c'est ce qui a tout déclenché. Et ce qui a déclenché aussi surtout, c'est toute une vie et tout un, comment dire, un bilan de j'en parlais avec Aurélia tout à l'heure, d'amis qui avaient des rêves, de collègues artisans, producteurs qui avaient également des rêves et qui n'osaient pas se lancer. Et les greniers, c'est vraiment fait, c'est un outil pour que tous les gens qui ont des rêves en fait, puissent les réaliser. Alors, ce n'est pas si facile, ça ne se fera pas comme ça, mais c'est vraiment mettre un outil en commun pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Quoi. Voilà.
Merci. Aurélia, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Je me permets de
tutoyer
tout le monde.
Sûr que tu as quelque chose à dire, même si c'était pas prévu.
Non, juste peut-être ajouter que c'est effectivement un lieu dans lequel il va y avoir plusieurs activités qui vont être.
Ce lieu, il était, vous l'avez récupéré dans un certain état. Aujourd'hui, après plusieurs mois de travaux.
Il a été un petit peu transformé, il était habitable et habité, mais effectivement, il a été un peu transformé pour répondre aux besoins des différentes activités qui vont y être créées. Voilà. Donc, il va y avoir un café, il va y avoir des gîtes, il va y avoir un magasin de producteurs, qu'est-ce que j'oublie, une galerie d'exposition, il va y avoir...
c'est une galerie d'art, des espaces en partage. Une future cuisine partagée qu'on tient. Pour le moment, on n'a pas le budget. On a des acteurs locaux. Mais c'est vraiment mettre en place des outils en partage et parallèlement à à ça, on a également des ateliers qui sont sur une autre forme de structure, mais qui vont fonctionner de la même manière, de manière à pourquoi pas faire une pépinière ou avoir des ateliers partagés.
Et qui accueillent des activités professionnelles.
Alors, qui accueillent déjà des activités professionnelles. Et c'est parti avec un autre projet qui sont les talents croisés. Pour le moment, on les a un petit peu perdus de vue, mais j'ai bon espoir que ça revienne et que c'est vraiment un outil qui on l'espère, qui va servir un maximum de personnes. Et voilà quoi, ça.
Et sur le mode de gouvernance ?
Alors le mode de gouvernance, ça fonctionne un petit peu comme une ça fonctionne comme une association. Ça veut dire qu'il y a un conseil coopératif qui a été élu par les 200 sociétaires. Et excusez-moi, un président dont
tu es le président.
Je suis le président, voilà. Voilà.
Tu portes
avec
le t-shirt.
Voilà, avec des conseils coopératifs tous les 15 jours, avec des prises de décision. Voilà, donc c'est
une vraie organisation, enfin une organisation.
Oui, une organisation et puis toute une mise en place avec des décisions à prendre et puis voilà, en collectif. Voilà, et surtout dans un intérêt collectif.
Merci Arnaud. Natacha, si tu veux bien, pour l'autre bureau, je te pose la même question. Si tu veux bien nous présenter l'autre bureau, qu'est-ce que l'autre bureau ?
Alors, est-ce que je peux juste faire une petite réaction par rapport aux deux interventions ?
Bien sûr.
En fait, ce que je trouve intéressant et quelque chose qui est important pour l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est un ensemble de structures complètement différentes. Finalement, il y a des valeurs communes, il y a 3-4 valeurs communes dont on a déjà parlé, qui est la gouvernance démocratique, la finalité qui n'est pas du profit, mais qui est plus collectif, le but à utilité, enfin, un but à utilité un peu social et solidaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, au cœur du festival du collectif Les Métairies, on est 4 représentants de 4 structures différentes, en fait. Et donc, ça représente bien la diversité de l'économie sociale et solidaire. Que ce soit Artefact ou les Greniers de Vineuil, là, ce qui nous ont dit les deux, ça montre quand même des structures qui marchent, qui fonctionnent, qui ont des réunions régulières. Artefact, ça existe depuis 10 ans. Les Greniers, là, tu viens de dire, Arnaud, que vous réunissez tous les 15 jours pour faire avancer, etc. Donc, voilà, ça montre que c'est des structures, c'est pas des idées en l'air, quoi. C'est des structures qui sont aussi solide que des entreprises classiques, entre grandes guillemets. Voilà, c'était ça que je voulais dire, que je trouvais intéressant. Alors, nous, l'autre bureau, c'est un espace de coworking. Donc, le coworking, c'est du travail partagé. Nous, notre idée, c'était de se dire, aujourd'hui, c'est un peu bêta et ça ne sert à rien d'avoir les choses pour soi et les acheter individuellement. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, quand je dis nous, c'est avec Nicolas Orgelet, avec lequel j'ai construit le projet il y a 3 ans maintenant, c'était de se dire, au lieu d'être tout seul dans son bureau ou tout seul chez soi, on mutualise les biens et les services liés au travail. Donc un petit peu comme une coopérative d'activité et d'emploi, sauf que nous, on est plutôt dans un espace clos. Voilà. Un espace de coworking, c'est un endroit où vous êtes indépendant, vous êtes freelance, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes en télétravail, vous en avez assez d'être tout seul chez vous, et chez vous et tout seul, et vous trouvez un lieu où vous allez travailler de façon efficace en partageant les outils et les services. Donc c'est l'internet, c'est les imprimantes, c'est les scans, c'est etc. Et vous rentrez dans un projet collectif. Et ça, je pense que c'est le grand mot de l'économie sociale et solidaire, c'est le collectif. C'est finalement, nous, notre espace, avec Nicolas, on l'a construit à tous les deux. Mais finalement, notre but et notre souhait initial, c'était qu'il soit complètement pris par les coworkers. C'est-à-dire que les coworkers se sentent chez eux. Donc, on a fait une décoration vraiment comme à la maison, voilà, avec la théière de mamie, etc. On a voulu faire comme à la maison pour que les gens se l'approprient et finalement le fassent évoluer. Parce que si Nicolas et moi, on avait voulu monter quelque chose où on aurait tout décidé de A à Z, et ben on aurait fait une entreprise. Voilà. Si j'avais voulu m'enrichir, par exemple, j'aurais fait une entreprise, par exemple. Voilà. Donc voilà, donc il y a cette notion de collectif qui est important. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est ouvert et finalement, bah, les coworkers se sont bien appropriés. Différents exemples, hein. Il y a eu des objets de décoration qui ont été faits. Et ce qu'on a fait aussi beaucoup, c'est on a créé de la coopération et des actions en commun et des partenariats avec d'autres structures locales associatives qui sont donc représentées ici. Hein, là. On a fait des choses avec Artefact, on n'a pas encore fait quelque chose avec les greniers, mais ça ne saurait tarder. On a fait des choses avec la ressourcerie de Cédric et bien sûr avec les métairies. Donc finalement, la dimension collective et coopérative, qui était un peu notre pari, elle est là-dedans. Et puis après, il y a une autre dimension importante, c'est que donc on a une association qui s'appelle Working Blois. L'association gère l'espace, donc par exemple, le loyer est au nom de l'association, etc. Et ce qui donne sa patte d'économie, en fait, c'est que l'association a pu embaucher et créer un poste de salarié. Enfin, pour moi, je pense que le vrai passage à l'économie sociale et solidaire, il est là. Il est quand on arrive à créer un emploi qui est non délocalisable, en fait. Donc ça, c'est une des valeurs très importantes aussi de l'économie sociale et solidaire. Et cet emploi, on a pu le créer grâce au modèle financier qu'on a construit. Donc en tant qu'association, on a monté des dossiers de demande de subvention. Donc, on a été aidé par la région via le dispositif À vos idées et par l'Europe via le dispositif Leader. Et donc, c'est les projets qu'on a mis dans le cadre de ces dossiers de subvention qui nous ont permis de les avoir. Et les deux grands projets, c'était de rester dans une dynamique coopérative, donc entre coworkers de fait et avec les autres structures associatives locales dont je vous ai parlé. Et l'autre promesse, c'était de créer un lien ville-campagne entre le centre-ville de Blois et nous, notre autre bureau un petit peu prototype, et voir comment on pouvait accompagner des communes un peu plus rurales dans leur projet de développement ou le projet de mise en place de coworking. Voilà. Je pense que ma présence ce soir, elle n'est pas de faire la promotion pour l'autre bureau, mais surtout de voir comment l'association qui gère l'autre bureau, en fait, s'intègre dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Je pense que j'ai dit les grandes...
Merci, Natacha. Ça soulève plein de questions. On va laisser Cédric... quoi ?
Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et ça soulève des questions. Donc,
en effet, non, mais on partage des choses.
La ressourcerie.
Alors, la ressourcerie, pour commencer.
Les bonnes manières.
C'est un projet. Donc, ressourcerie du Blaisois, les bonnes manières. C'est un projet qui est né il y a à peu près 3-4 ans. On est dans une démarche de prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation, qui est une compétence gérée par la collectivité, alors ici par Valeco et par Aglopolis. Donc on empiète un petit peu déjà dans le précaré des collectivités. Donc il y a eu tout un travail, on va dire, de démarchage, de sollicitation pour savoir s'il y avait de l'espace pour ce type de structure qui peut être portée directement par une collectivité. Lorsque fin 2015, début 2016, on est arrivé avec ce projet, il n'y avait pas de projet de ressourcerie en tant que tel qui était dans les tuyaux de la collectivité. Donc, nous y sommes allés sur un modèle d'économie solidaire, je ne dirais pas sociale, mais solidaire. Peut-être qu'on en reparlera après, mais l'économie sociale et solidaire, c'est un peu fourre-tout. Et nous, on se positionne plutôt comme faisant partie de l'économie solidaire. Voilà. Nous sommes une association, comme l'autre bureau, mais on partage avec nos camarades cette gouvernance partagée. Et ça, c'est quand même un concept qui est super important parce que cette gouvernance, elle évolue au fur et à mesure de l'évolution de nos activités. Et ça peut parfois créer quelques frictions. Et ce n'est pas évident. Et je pense que peu importe la nature de nos statuts juridiques, c'est compliqué. Et on partage en commun qu'on a tous été porteurs de projets ici. Et qu'à un moment donné, il y a aussi un des principes de l'économie solidaire, c'est de ne pas refuser de gens qui veulent adhérer au projet pour le co-animer, pour le porter, pour le défendre, et que c'est parfois un peu compliqué par rapport à un entrepreneur privé qui monte sa structure avec son capital, et puis le jour où il en a marre, il revend sa structure et il récupère son capital. Donc il y a quand même aussi une vraie volonté de coopérer, ce qui n'est pas toujours évident parce que je ne crois pas que ce soit tout à fait dans la nature humaine. Et en fait, Et voilà, en tout cas, donc il y a cette idée de gouvernance, on l'a évoquée, on en a parlé, et je pense qu'elle est hyper importante. Donc nous, ce que je voulais dire par là, c'est que notre gouvernance, elle a évolué, il y a eu trois grosses phases en fait. Il y a eu les porteurs de projets initialement, il y a eu un premier CA, qui était les copains, la famille, etc. Et puis, il y a eu l'installation de notre activité. On a ouvert, nous, en juin 2017, donc réellement, notre activité physique, c'est-à-dire celle de récupérer des objets, de les revendre à prix solidaire, de proposer des solutions aux gens pour apprendre à allonger la durée de vie des objets. Ça, ça existe depuis 2017. Nous, on a eu beaucoup de chance. Alors, il y a aussi un autre sujet, j'y tiens comme ça, je mets les sujets. Mais dans l'économie solidaire, il y a aussi l'hybridation en fait, des ressources qui ne sont pas que financières. Et nous, on y tient parce qu'on appartient à un réseau national, le réseau des ressourceries. Alors, les ressourceries, les recycleries, c'est la même chose. C'est juste que les ressourceries, elles adhèrent à un réseau et qu'on doit défendre une charte de valeurs, mais qui sont les principes de base du développement durable, c'est-à-dire faire de l'économie en respectant l'environnement et en prenant en compte le social. Voilà. Donc, la charte des ressourceries, elle inscrit ça dans le marbre en disant voilà, notre action, elle doit s'engager sur ces trois piliers. Pour revenir à ce que je disais, l'évolution donc de la gouvernance et l'hybridation des financements. Donc on a démarré en effet avec des financements publics, les mêmes que l'autre bureau, c'est-à-dire des fonds régionaux, un dispositif qui s'appelle À vos idées, des fonds européens, leaders, qui, sur des montants qui sont quand même assez conséquents. Alors nous, on a une particularité dans une ressourcerie, c'est qu'on a des recettes propres et qu'on peut avoir une part d'autofinancement plutôt correcté. On a eu de la chance parce que nos prévisions initiales étaient un peu plus basses, on a été un peu plus prudent que prévu, et donc aujourd'hui, nous n'avons pas fait de bénéfices, mais des excédents, et j'y tiens, parce que voilà, dans des associations ou dans l'économie solidaire, on fait des excédents, on ne fait pas de bénéfices, mais parce que je pense que quand on dit ça, les gens font « Ah oui, ce n'est pas la même chose », parce que les excédents, on peut les réinvestir, les réinjecter sur d'autres projets, et tout ça permet d'avoir un effet de levier, et de croître encore plus nos missions. Donc, il y a cette hybridation du financement. Et elle passe aussi, nous, par la valorisation du bénévolat. Alors, c'est compliqué parce qu'une ressourcerie, pour un usager lambda, il va faire la même chose. Il va déposer des objets, il va acheter pas cher. En fait, il y a 1000 modèles de ressourcerie qui existent. Ça peut être des ateliers chantiers d'insertion, donc qui vont être financés pour l'insertion professionnelle. Nous, c'est un choix qu'on n'a pas voulu faire pour une raison simple, c'est qu'on voulait sensibiliser tous les usagers. Et il n'y a pas mieux que de venir comme bénévole à la ressourcerie pour se rendre compte qu'on vit quand même dans une société d'ultra surconsommation. Je prends des superlatifs parce que en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà. Là, aujourd'hui, je suis parti avant le décompte du tonnage, mais c'était un mercredi calme. On a juste récupéré une tonne dans un local qui fait 400 mètres carrés. Donc en termes de flux à gérer, c'est quand même beaucoup. Mais quand on est simple bénévole et qu'on vient s'investir et qu'on passe une demi-journée à la ressourcerie, en plus de faire acte, en plus de faire une action qui est bonne, eh ben soi-même on prend conscience qu'il y a peut-être aussi des modes de consommation à changer. Et nous, on n'est que la partie émergée de l'iceberg par rapport à ce qu'on fait. Mais en fait, le vrai problème, c'est comment consommer responsable, comment changer nos modes de consommation. Et c'est compliqué parce qu'on est quand même très formaté. Donc, je reviens sur cette hybridation des financements qui, pour moi, est quand même essentielle dans l'économie solidaire. C'est qu'on demande de l'argent public. On peut avoir des ressources propres pour certains sur des prestations. Artefacts, ils font beaucoup de prestations également. Enfin, il me semble, de formation, de choses comme ça. Voilà. Et vous avez aussi des financements publics. Et puis, nous, on a aussi le bénévolat qu'on valorise. Et actuellement, si on valorisait le bénévolat, ce serait la moitié de notre chiffre d'affaires. Voilà, si c'était des gens qu'on rémunérait. Donc c'est hyper important. Et en fait, l'économie solidaire, ça permet ça. Ça permet en fait de répondre aux exigences qui sont les nôtres sur les projets qui sont les nôtres, c'est-à-dire défendre nos valeurs, nos projets, de faire autrement. Et en même temps, ça permet de penser un modèle économique qui est différent. Et l'argent public, je le dis souvent, nous, on ne le vole pas. C'est-à-dire que pour les ressourceries, il y a un modèle qui... Voilà, enfin, il y a, on va dire, une recette simple, c'est qu'on considère qu'on détourne des flux qui seraient arrivés in fine en déchetterie. Et en fait, en général, ce qu'on demande à la collectivité, c'est simplement de compenser financièrement ce qu'ils ne reçoivent pas à traiter. C'est-à-dire qu'il y a un coût de traitement de la tonne. On va dire, imaginons 200 euros si on fait 100 tonnes, nous, si on récupère 100 tonnes par an, on va demander 20 000 euros. Et en fait, l'opération, elle est neutre pour la collectivité. Simplement, nous, on aura rempli notre job d'allonger la durée de vie des objets et évidemment, et aussi créer de l'emploi, puisque ça fait partie aussi des missions d'une ressourcerie et de toutes nos structures, de créer de l'emploi. Et donc, je reviens, pardon, sur cette histoire de gouvernance.
Et on finit.
Il y a eu trois phases. Il y a eu trois phases. Il y a eu vraiment la première période, on porte un projet, le premier CA, les copains, la famille. Et puis à un moment donné, on arrive à un stade où on doit gérer tellement de choses. Et puis on a dû s'ouvrir, en effet, à plein de gens qui sont venus donner un petit coup de main et puis qui ont envie de s'engager plus. Et à ce moment-là, nous, notre ancien conseil d'administration a décidé de jouer complètement horizontal en décidant qu'il n'y aurait plus de président, de trésorier. C'est-à-dire que chez nous, tout le monde est coprésident. Ce qui est complexe à mettre en œuvre de façon pratique, mais tout le monde est engagé et tout le monde a le même niveau de responsabilité. Voilà.
Merci Cédric. Voilà, tu soulèves les applaudissements de la foule. On applaudit tout le monde, c'est vrai. C'est vrai et c'est bien mérité. Donc, vous avez un panel de différents projets avec chacun des spécificités et peut-être une existence. On va dire que Artefact fait œuvre de présence de précurseur, certainement. L'économie sociale et solidaire, on en parle depuis quand ? Vos projets ont 3-4 ans pour les greniers de Vineuil, même moins. Il y a un an, la ressourcerie et l'autre bureau. L'économie solidaire, ça prend source dans quel... comme tu disais, ça existe depuis toujours, d'une certaine manière, que des gens se rassemblent en collectif et décident d'une problématique, d'y réfléchir, d'y travailler, et puis d'en faire quelque chose qui...
Les premières entreprises agricoles étaient des coopératives.
Voilà.
En 1800.
Donc c'est un modèle.
La date, hein,
c'est un modèle qui s'est. Charles, peut-être tu veux peut-être dire un mot sur le sujet, sur justement ce.
Bonsoir. Donc Charles, moi je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire. Alors je suis pas en charge de l'économie sociale et solidaire, mais assez largement par mes délégations quand même, puisque j'ai notamment en charge les questions des initiatives citoyennes, de la démocratie. Et ce qu'on a entendu, c'est que l'économie sociale et solidaire se définit par ses valeurs plus qu'aujourd'hui par les formes de ses statuts. Alors qu'historiquement, elle a été plutôt à la rencontre de trois grandes familles. Elle était la rencontre du monde associatif. Qui n'était pas considéré comme un acteur de l'économie, qui l'est devenu progressivement. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement l'acteur du bénévolat, mais c'est aussi un acteur qui, dans un territoire, crée de l'emploi, crée de l'investissement, investit dans un territoire et crée de l'économie. Les coopératives, qui sont une autre grande famille, on en a quelques représentants ici, puis il y en a une dont on n'a pas parlé ce soir, mais qui est les mutuelles, même si elles ont en chemin peut-être perdu pour certaines une part de leur histoire de l'économie sociale et solidaire, mais c'était ça l'économie sociale et solidaire. Et la loi Hamon, qui est une loi qui a été votée en 2014, a élargi en disant que ce n'est pas le statut qui définit, c'est plutôt l'intention, les valeurs. Et donc, aujourd'hui, une entreprise classique pourrait obtenir un agrément d'économie sociale et solidaire. Donc, ça élargit le cercle de ceux qui interviennent sur ces questions. Moi, je voulais juste dire, peut-être il y a un mot qui mérite d'être affirmé, c'est le mot de la coopération. C'est-à-dire que ce que je crois porte l'économie sociale et solidaire, c'est des dynamiques de coopération entre les humains, entre les acteurs dans un territoire. Et c'est déterminant. Et je pense que c'est d'autant plus déterminant la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation de transformation du monde assez majeure. Tout le monde en prend la mesure. La question de la transition écologique est au cœur des sujets. Quand on écoute tout ce que vous faites, on a les ingrédients d'une transformation des territoires. Entre, d'un côté, on s'occupe de circuits courts, on s'occupe d'artisanat, d'emplois locaux, on s'occupe de culture dans les territoires, on s'occupe de déchets, on s'occupe d'autres façons de travailler. Et tout ça, ça porte profondément les changements devant lesquels on est. Et je crois qu'un des sujets majeur, à mon avis, pour le futur, c'est de relocaliser l'économie. Et ce que porte l'ESS, c'est cette relocalisation. C'est-à-dire que la plus-value de cette économie-là, elle va dans le territoire. À la différence de l'économie classique, c'est aussi une différence qui n'a pas été nommée, c'est que l'économie classique, l'économie classique, la valeur ajoutée, bien souvent, elle ne vient pas dans le territoire. Vous regardez dans notre région, vous regardez le modèle agricole. 90% de ce qu'on fait est exporté, déjà, pour commencer. Une bonne part de l'économie n'est pas réinjectée dans nos territoires. On a une région de sous-traitance. On a beaucoup de sous-traitants dont les donneurs d'ordre sont ailleurs. Et ben, une bonne partie de la valeur ajoutée part pas. Avec l'ESS, c'est des emplois non délocalisables, c'est de la valeur ajoutée dans les territoires. Il y a des territoires ruraux particulièrement où ça représente parfois jusqu'à 30% des emplois si on compte les coopératives agricoles, même si elles se sont un peu transformées elles aussi. Donc l'ESS, ce n'est pas un pis-aller, ce n'est pas une niche, c'est l'occasion de penser la transformation de l'économie plus globalement. Et à mon avis, c'est l'avenir de l'économie. Voilà.
Alors justement, quel dispositif, puisque tu as le micro, les dispositifs qui permettent d'aider ces initiatives citoyennes qui naissent d'une initiative citoyenne? Quels sont les dispositifs qui permettent d'aider?
Alors, on a beaucoup parlé d'Avos Idées. Moi, on peut être fier d'habiter dans cette région. C'est la seule région où il y a ce type de dispositif. Avos Idées, ça s'appelait avant Idées en campagne. Donc, c'est un dispositif qui est né dans les territoires ruraux. Et Idées, ça veut dire initiative de développement. C'est un dispositif qui oblige des acteurs à travailler ensemble pour le développement de leur territoire. Pas pour leur propre projet, mais à se mettre d'accord pour porter un développement pour un projet. Le coworking, c'est un lieu où des gens se mettent d'accord pour travailler ensemble autrement, pour partager. La ressourcerie, c'est pas juste la ressourcerie tout seul, c'est le syndicat de gestion des déchets, c'est des citoyens, des habitants de quartier, etc., etc. C'est des acteurs de l'insertion éventuellement. Et donc, on est au cœur de ces coopérations. Donc, c'est un dispositif tout à fait intéressant qui soutient en fonctionnement et en investissement des projets coopératifs, bientôt pour les greniers de Vineuil. Je pense à Studio ZEF qui a été soutenu. Enfin, il y a plein de projets dans le territoire qui ont été soutenus par ça. Donc ça, c'est une première piste. Deuxième élément, on a un dispositif de soutien à l'économie, puisque la région s'occupe des aides économiques, et on a un dispositif dédié aux coopératives, au SCOP. Hein, donc on a le CAP SCOP qui permet de soutenir des projets de développement et Artefact a bénéficié, en créant des antennes un peu partout d'ailleurs, hein, de ces soutiens d'amorçage pour pouvoir accompagner cette émergence-là. Et puis enfin, on a des dispositifs qui vont être plus thématiques, qui vont pouvoir soutenir. Par exemple, on a un appel à projet sur l'économie circulaire, dont vous pourriez bénéficier demain, puisque ce sera peut-être la prochaine étape. On a des projets sur la culture dont peut bénéficier Artefact. On a des soutiens qui peuvent être orientés sur les questions de démocratie dont les uns et les autres pourraient bénéficier demain. Donc la région a, je crois, à travers presque tous ces dispositifs, enfin beaucoup de ces dispositifs, la possibilité de soutenir la grande diversité que notait Natacha de l'économie sociale et solidaire. Et vraiment, moi, je pense que c'est là que va se jouer demain les réponses au sujet devant lesquels nous sommes, et ils sont quand même majeurs.
Avant de donner la parole au public nombreux, moi j'ai envie de poser la question aussi, maintenant qu'on a le cadre, du moins les réponses que nous a apportées Charles, c'est quels sont vos freins aujourd'hui identifiés, là où vous ressentez des difficultés, là où vous êtes dans votre développement ou dans de manière interne, dans votre développement ou dans votre manière de fonctionner, quels sont les freins que vous rencontrez? Cédric, Natacha, ouais, les mains se lèvent, mais c'est important d'en parler.
Je pense que tout simplement, quand on porte des projets comme les nôtres, c'est qu'on a envie d'aller plus loin que ce qui existe déjà. Et le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans les cases, toujours. Donc Charles l'a dit, mais heureusement qu'on a des dispositifs d'accompagnement financier qui permettent d'amorcer. Mais après, on a des contraintes beaucoup plus basiques que ça. C'est-à-dire que quand on décide aujourd'hui d'administrer une association en n'ayant que des coprésidents et que les formulaires à la préfecture ne sont pas prévus pour, on a une secrétaire derrière qui gère le dossier, qui est complètement en panique et on peut renvoyer jusqu'à 2-3 fois le dossier pour faire comprendre que tout est légal et tout est en règle. Nous, sur notre sujet à la ressourcerie, qui est en effet l'économie circulaire et le déchet, on a une législation qui est très récente, qui met en avant le réemploi et la réutilisation comme un mode de prévention de réduction des déchets. Donc aujourd'hui, notre frein, ça va être le cadre des collectivités qui font des efforts pour aller sur ces sujets-là, mais qui n'y sont aujourd'hui pas prêtes. Quand on est arrivé en 2015, il n'y avait pas encore lu la loi sur la transition énergétique qui parlait un peu plus d'économie circulaire. Donc les collectivités n'étaient pas du tout contraintes de nous accompagner. Ça va changer un peu dans les temps qui viennent, mais on va être sur des choses assez basiques. Par exemple, si on veut travailler aujourd'hui, nous on est sur Blois-Vienne, juste si on voulait travailler sur la déchetterie de Blois-Vienne, aujourd'hui il n'y a pas d'espace sur cette déchetterie à l'époque où elle était construite pour créer une zone de réemploi, c'est-à-dire que les gens puissent déposer des objets qui peuvent être encore utilisés et créer une passerelle entre les deux. Donc je pense qu'il y a à la fois la nature du projet, le cadre administratif, et puis le fait qu'on veuille faire mieux que ce qui existe déjà sur nos propres thématiques.
Natacha ?
Oui, c'est vrai, Cédric, tu as raison, mais c'est aussi parce qu'on est quatre exemples de projets et d'activités innovantes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a défini aussi nos projets. On est dans des thématiques innovantes. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, il y a plein de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont moins innovantes, qui sont plus pépères et qui rencontrent peut-être pas les difficultés qu'a énoncé Cédric. Moi, je pense qu'une des difficultés qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que quand on parle de l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas de profit, c'est pas du capitalisme, on est tous ensemble, on crée de l'emploi local. La réalité, elle est beaucoup plus difficile que ça. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Arnaud tout à l'heure des greniers, mais on a tous envie de faire du collectif et du coopératif, hein, ça parle à tout le monde. D'ailleurs, si on est là, c'est aussi qu'on soutient le collectif des métairies, et donc on a tous envie de le faire. Mais quand on le fait réellement, c'est compliqué parce qu'on est des êtres humains et que finalement, tout décider toujours ensemble, ce n'est pas forcément simple. Voilà. Que ce soit dans une association, dans une mutuelle, souvent c'est un petit peu plus gros, ou dans une coopérative, ou même dans une SIC ou une SKIC, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et nous, on a une petite structure. Enfin, je veux dire, on a 10 coworkers réguliers, 10 moins réguliers, donc ça fait 20. Aujourd'hui, deuxième année, on est à 50 adhérents. C'est quand même pas mal, mais ça reste assez petit. Et en janvier, on a relancé une dynamique associative au sein de l'autre bureau. Et on a un CA de 9 personnes. Bah, 9 personnes, 10 coworkers réguliers. Donc, vous avez vite compris que le CA, c'est des coworkers réguliers. Ce qui est très bien, finalement, puisque c'est eux, c'est les premiers usagers. Mais finalement, quand vous êtes la salariée de cette structure-là, donc moi, c'est moi la salariée, bah, vous avez parfois envie d'aller plus vite que la vitesse à laquelle peut aller un CA formé de bénévoles qui, eux-mêmes, ont leur activité, puisqu'ils viennent au coworking pour exercer leur activité. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'on on n'est pas des doux rêveurs, c'est-à-dire que le mot collectif et coopératif, il est beau, Charles disait que c'était quelque chose qui était essentiel dans l'économie sociale et solidaire, mais il est très difficile à mettre en œuvre, et voilà, et rien n'est jamais complètement acquis, quoi. On est toujours dans l'action et dans le... Et on y croit toujours, sinon on arrêterait, mais c'est quelque chose qui est difficile. Voilà.
Merci Arnaud. Est-ce que tu as envie de parler de tes freins à toi?
Mes freins, alors bizarrement, moi, j'ai fait différents projets dans ma vie professionnelle et je ne rentrais jamais dans les cases. Et là, bizarrement, je suis tombé. Cédric a commencé il y a 5 ans et lui s'est heurté peut-être à des choses qui n'existaient pas. Moi, il y avait quand même beaucoup de choses de mise en place. Et là, je me suis retrouvé finalement accompagné de par la région, de par la, à rentrer justement dans beaucoup de cases. Parce que donc j'en suis plutôt content. Donc ça, c'était plutôt un point positif. Après, oui, c'est nous notre frein. C'est on en parlait. Comme l'a dit Natacha tout à l'heure, bah c'est l'humain qui est pas évident. On a tous refait le monde, hein. On veut tous, on crache sur le capitalisme, sur le libéralisme, sur tout ça. Mais on s'aperçoit qu'on est dans une société très consommatrice et que finalement, sans, on parlait de bénéfices tout à l'heure ou d'excédents, sans ça, c'est difficile de créer finalement une dynamique. Une dynamique qui, sur des projets tels que les nôtres, je disais il y a un an, mais le projet réel a commencé il y a 2 ans, enfin l'idée a germé il y a 2 ans. Et quand on a des projets comme ça qui sont longs à mettre en place, toujours garder une dynamique et garder des gens autour de nous qui sont partie prenante et autres, c'est pas toujours évident. Parce que si on n'a pas d'intérêt à faire quelque chose, et ben finalement on s'aperçoit que, mais dans les associations pour ceux qui font partie d'Asso, effectivement, sur 100 personnes, quand il y a un groupe de 5 personnes vraiment actifs, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est la vie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais comme le disait Natacha, on y croit, on lâche rien. Et comme le disait Charles, c'est vraiment l'avenir de notre économie, je pense. Et faut, voilà, on est peut-être précurseur un petit peu, mais faut rien lâcher, faut continuer. Voilà. Mais effectivement, tout n'est pas simple, mais tout n'est pas non plus si compliqué, finalement. Enfin, c'est, la vie est belle. Hein.
Aurélia, peut-être...
Moi, je n'ai pas suffisamment d'ancienneté sur le projet pour identifier les freins, si ce n'est qu'effectivement, on manque de force vive et que c'est, je pense, difficile de mobiliser les gens sur la durée en amont de l'ouverture d'un projet. Voilà.
C'est un questionnement qui, on ne pourra pas l'aborder, mais c'est peut-être aussi un sujet à décliner sur la mobilisation des forces vives.
Alors, c'est peut-être aussi nous qui n'avons pas su faire. Hein. On ne rejette pas forcément la faute sur qui que ce soit. Mais voilà, quoi, c'est tout nouveau aussi pour nous. Donc, on avance. Mais on avance. Hein. On avance plutôt pas mal.
Nicolas.
Je vais pas identifier les freins parce que j'en ai pas. Non, si, j'ai plutôt employé le mot de problématique. On a des problématiques qui sont contemporaines et qui sont liées au fait que les lois changent, que des choses se transforment. Faut être au taquet, quoi. Faut rien lâcher, faut faire une veille, faut y aller. Nous, on a la chance d'avoir une équipe d'appui qui est maintenant composée de quasiment 9 personnes si on compte les co-gérants, ce qui fait qu'on commence un peu à grossir. Alors la problématique qu'on pourrait avoir, c'est que cette équipe d'appui, faut pouvoir la payer. Donc effectivement, la région nous aide sur le volet développement économique culturel. Après, en autre problématique, on pourrait avoir, là c'est récent, c'est on est organisme de formation, il y a une réforme de sur les organismes de formation. Voilà, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on veut toujours notre numéro d'organisme de formation? Comment on s'y prend? Donc on fait des réunions et on n'est pas seul. Hein, en CAE, nous, il y en a plusieurs en France, il y en a même un certain nombre. Donc on se parle, on communique, il y a des réseaux, il y a des labels, il y a des trucs. Nous, c'est des problématiques qui peuvent être changeantes par moment et faut travailler dessus. C'est à la fois hyper stimulant et puis ça peut être aussi... Alors une troisième chose aussi, c'est la déprécarisation assez rapide en fait, des entrepreneurs qu'on va... mettre, donc dans un premier temps, on les accompagne, on appelle ça le CAPE, donc c'est un truc d'accompagnement pendant un an où on va les aider à se structurer. Je sais pas, il y en a un, il veut vendre des ceintures avec des clous, ok, comment tu les fais tes ceintures, est-ce que tu utilises des matériaux de réemploi par exemple, ton cuir, tout ça, c'est quoi ton modèle économique? Le modèle économique, c'est comment je fais de l'argent pour moi pouvoir me dégager un salaire, comment je vais pouvoir fabriquer cette fameuse ceinture. Est-ce que je ne vais pas, par exemple, je ne sais pas faire les trous dans la ceinture. Ah bah tiens, il y en a un dans la coopérative, il sait les faire, puis il les fait bien en plus. Bah vas-y, viens, on y va ensemble. Et puis comment on fait ça? Après, il y en a un, il fait des clous. Ah bah super, voilà. Là, le but, c'est vraiment de coopérer, quoi. Mais on a des problématiques, c'est vraiment la déprécarisation qui doit être faite quand même en un an, on va dire, un peu plus, si jamais il y a des personnes qui sont en transition professionnelle. Et dernière chose que je suis en train d'oublier, et tant pis si je l'oublie, c'était... Oui, on est sur des secteurs culturels, donc on est sur des métiers qui sont quand même en pleine transformation. Et ça, clairement, faut aussi agir. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un graphiste. Avant, il y avait quelqu'un qui faisait de la mise en page, et puis il y avait un autre métier qui s'appelait la pré-presse, et puis avant, il y avait le concepteur, puis avant, il y avait le directeur artistique, et puis après, il y avait la personne qui allait convertir ça pour le web, et puis après, il y avait l'intégrateur qui allait faire le web, et puis après, il y avait le développeur qui allait faire le site pour mettre le web. Super. Maintenant, tout ça, c'est un demi-métier. C'est même plus un métier entier, hein, c'est un demi-métier. Et nous, vu qu'on est dans le secteur culturel, on est confronté à des problématiques comme ça, c'est-à-dire que des métiers qui, clairement, soit disparaissent, soit sont minimisés, soit sont très difficiles à justifier dans leurs prestations intellectuelles. Voilà, ça c'est notre travail, il faut accompagner là-dessus, quoi.
J'ai envie de maintenant proposer à vous, les citoyens, et puis le public, de vous donner la parole et de poser des questions. Si vous avez envie. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce qui a été, dit, ou faire part aussi... d'une expérience, peut-être même d'une histoire qui commence sur ce sujet de l'économie sociale et solidaire, Voilà, le micro est ouvert et il suffit de lever la main. Voilà, madame, vous vous présentez ?
Donc Clarisse.
Approchez le micro de votre. Voilà, parfait.
Alors, Clarisse, je suis de Cléry-Saint-André, donc pour ça, c'est pas dans l'Oreille-Cher. Je fais partie de la MAP de Cléry-Saint-André. J'ai bien entendu bon, toutes les problématiques humaines, etc. Mais j'aurais voulu vous entendre sur... vous n'avez pas eu de frein au niveau des structures, des locaux. Comment vous avez trouvé ces locaux? Est-ce que vous êtes locataire, propriétaire, les uns et les autres? Comment ça se passe exactement?
Qui souhaite répondre? Natacha.
C'est vrai que ça, c'est une question très pratico-pratique de nos structures. C'était pas tout, enfin, on peut répondre, hein, mais c'était pas tout à fait l'objet de la de l'apéro. Oui, voilà, ça vous intéresse au-delà de ça. Bon, bah alors, du coup, je vais commencer par moi. Donc nous, on est locataires. On est locataires donc d'un espace que je vous invite à venir voir, hein, qui est au 2 bis rue Pierre de Blois. Et donc nous, on est locataires d'un bailleur social qui s'appelle Loir-et-Cher Logement, voilà. On n'est pas voilà, on n'est pas locataire d'un espace de la mairie. Il se trouve que c'est un bailleur social, ça pourrait être un privé, hein, mais voilà. Donc nous on est locataire, donc c'est vrai que c'est un coût qui rentre dans nos charges fixes. Et voilà, et dans l'équilibre financier, c'est à prendre en compte. Voilà, par exemple.
Et Vineuil, c'est là où ça m'intéresse le plus.
Alors les greniers de Vineuil, en fait, le projet est parti. De ce lieu, de la vente de ce lieu qui me parlait. Je suis artisan ébéniste depuis une vingtaine d'années. Bon, là, je travaille uniquement pour les greniers de Vineuil depuis presque 2 ans. Donc, je ne fais plus rien. Enfin, plus rien pour mon activité professionnelle. Donc, c'est un lieu qui me parlait parce que c'était un lieu chargé d'histoire et surtout où il y avait de la vente de mobilier de qualité. Donc en voyant cette annonce, donc le projet m'est venu et c'est sorti en 10 minutes, un quart d'heure, hein. ça s'est vraiment fait d'un flash comme ça et c'est parti donc il y a 2 ans.
Propriétaire du lieu, alors.
Donc on n'est pas propriétaire du lieu. On aurait pu au départ j'ai réuni 4-5 copains qui avaient monté quelques beaux projets qui financièrement pas trop de soucis. On aurait pu acheter ce lieu à 4-5 sans aucun problème, ou peut-être tout seul si voilà, enfin, mais et en fait on voulait vraiment que ça aille plus loin, enfin sans moi il y a encore 2 ans l'économie sociale et solidaire, limite je dis pas que je m'en fichais, mais ça voilà, c'était en dehors de mon quotidien et c'est venu comme ça et tout de suite je me suis dit mais c'est un lieu déjà qui... À Vineuil, on n'a pas énormément d'espace public d'un lieu comme ça, style auberge. Hein, je parlais d'auberge tout à l'heure. Et j'ai dit, finalement, ce lieu, il faut qu'il appartienne aux citoyens, qu'il redevienne public. Et donc, on a cherché. Je ne savais pas du tout que les SIC ou les SCOP, où ça existait. Et par des petites recherches Internet, je suis assez rapidement tombé sur les SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Et donc, c'est parti comme ça. Et donc, on a fait une porte ouverte. On a lancé le projet aux citoyens en disant que ça pouvait être à eux. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on est 200 sociétaires, on est 200 propriétaires finalement, 200 familles propriétaires, dont la mairie de Vineuil. Donc, c'est vraiment, ça devient un lieu d'intérêt collectif. Voilà. Et donc, du coup, ça a été un achat parce que c'était ce lieu et puis pas un autre. Enfin, voilà. Et le propriétaire vendait ce lieu, donc il n'était pas question de louer. Qui est aussi un frein. On parlait de frein tout à l'heure, donc je reviens un petit peu sur le frein. Ça a été les freins bancaires parce que les SIC, les banques, pour eux, c'est un gros mot. Hein, ils ne connaissaient absolument pas. Il y en avait une, il me semble, dans le Loir-et-Cher, une entreprise montée en SIC. Mais voilà quoi, on a globalement été la première, donc les banques locales forcément ça a été niette et puis voilà
ça,
c'est
ça pose problème,
donc mais bon, on a passé ce cap là et donc oui, nous c'est un achat.
D'accord, très bien,
voilà.
Je crois que Charles souhaitait faire une réponse.
Oui, non, je voulais juste dire que sur les locaux, alors ça dépend de la nature des projets. Il y a des projets qui ont besoin de locaux particuliers, mais juste je voulais identifier ce qu'on appelle les incubateurs de projets ou les couveuses aussi qui peuvent permettre dans une première phase de disposer de locaux pour lancer une activité, qui peuvent permettre de s'appuyer sur une ingénierie pour accompagner l'émergence des projets. C'est quand même extrêmement important. Alors, il y a des CAE qui font un peu le travail de couveuse, même si dans l'univers, tout le monde aime bien être un peu séparé dans les rôles, mais il y a quand même besoin d'incuber des projets comme ça. Ici, à Blois, vous avez le Lab, qui a été initié par Aglopolis, qui est un lieu qui permet à des gens de lancer leur activité. Puis un autre très bon exemple, pas loin d'ici, qui est quand même hyper intéressant, qui fait partie de l'ESS, c'est ce qu'on appelle les espaces tests agricoles. Et il y en a dans tous les départements. C'est une structure qui permet à des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture de tester leur activité dans un cadre coopératif, donc avec tous les instruments qui sont nécessaires, et pour vérifier que l'activité marche. Parce qu'un des freins que vous n'avez pas nommé, en tout cas pas un frein, mais un des enjeux pour moi, c'est de trouver son modèle économique. C'est quand même ça le sujet qu'il y a derrière, c'est de trouver son modèle économique, la part de financement, la part d'autofinancement, la part de recettes issues des activités. Et ça, ça prend un peu de temps. Donc ça, on a parfois besoin d'être accompagné pour trouver ce modèle économique. Et c'est sans doute une part des projets se casse la figure parce qu'ils n'ont pas trouvé leur projet, parce qu'ils n'ont pas eu l'ingénierie pour accompagner les projets. Et donc, des fois, prendre un local trop vite, c'est se mettre des charges qu'on pourrait s'éviter en partageant avec d'autres. Donc, le coworking, par exemple, c'est une bonne formule aussi pour initier un projet et sans se taper toute la charge d'un local, d'un loyer et tout ce qui va avec. Voilà.
D'autres questions ? Ah, Alain.
Tout d'abord, félicitations pour la réalisation de vos projets. C'est super. Alors souvenez-vous, remettez-vous en tête au moment où vous étiez dans la réflexion, est-ce qu'il y a un organisme auquel vous avez pu vous adresser et qui vous a aidé à ce moment-là ?
Bon, nous c'était un petit peu de la triche parce que les ressourceries, ça fait 20 ans que ça existe, même si en Centre-Val de Loire elles ont tardé à arriver, parce qu'il n'y en avait pas il y a encore 6-7 ans. Il y a eu Vendôme très vite, mais qui était porté par la collectivité, donc qui a fait une grosse ressourcerie. Voilà, il y avait eu Orléans. Mais c'est vrai qu'on a pu nous transposer les modèles qui existaient. Et voilà, donc moi je suis le tricheur de la bande. Il y a un observatoire en fait qui existe, c'est-à-dire que toutes les ressourceries adhérentes remontent leurs données financières, le panier moyen, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a tous ces indicateurs pour pouvoir du coup faire un prévisionnel qui tient à peu près la route. Voilà, donc je laisse ceux qui ont plus galéré, je leur laisse la parole.
Moi, j'avais une double nécessité, c'est-à-dire que j'avais besoin de gens qui m'expliquent comment monter une association, d'une part, et puis après, j'avais besoin de gens qui m'expliquent comment monter un modèle de financement pérenne, comme disait Charles. Très bien, parce que c'est vrai que c'est assez essentiel. Donc finalement, moi, c'était vraiment mes deux besoins. Enfin, Nicolas et moi, c'était vraiment nos deux besoins initiaux. Donc, moi, j'ai fait une formation via Pôle emploi à la BGE Ismer, qui accompagne les porteurs ou les repreneurs d'entreprises, ceux qui veulent créer des entreprises ou reprendre des entreprises. Du coup, ce n'était pas tout à fait adapté parce qu'ils étaient plutôt branchés entreprise qu'association. Bon, voilà. Donc, ça a été un peu... Voilà. Et puis, puis après, je suis rentrée dans le mouvement associatif, le dialogue associatif. Là, je me suis plutôt appuyée sur la ville de Blois pour tout ce qui est association. Et puis après, pour le côté coworking, bien, moi, ça faisait 10 ans que je pensais à créer un espace de coworking quand j'ai vu les premiers espaces qui sont créés à Paris. Donc, j'en avais vu quelques-uns, quoi. Voilà. Donc, j'avais des petites idées.
Alors, bizarrement, moi, je disais que j'étais artisan depuis une vingtaine d'années. J'ai fui durant ces 20 ans les chambres des métiers. Ma femme est apicultrice professionnelle, donc avec la chambre d'agriculture. Et on fuit un petit peu tous ces organismes. Et bizarrement, dès que je me suis lancé dans les greniers de Vineuil, j'ai eu qu'une idée en tête, c'est d'une part de savoir s'il y avait d'autres projets similaires, de fait, de manière à ne pas refaire ce qui est déjà fait. Et puis d'être accompagné ou d'avoir une idée. Et ça m'a semblé d'une évidence. Donc, je me suis penché vers les chambres consulaires, CCI, chambre d'agriculture, chambre des métiers, et les pays des châteaux aussi, énormément. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça a matché tout de suite, ça a vraiment bien fonctionné. Et toutes les idées reçues que j'avais, finalement, se sont envolées. Et j'ai trouvé des gens assez... compétent et voilà. Donc Donc ça a vraiment été des structures qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. La mairie de Vineuil aussi, au départ, a été tout de suite partie prenante. Et c'est quand même des soutiens. Voilà. C'est...
On a eu l'avis, enfin, du moins une observation de Charles sur les collectivités et l'intérêt que les collectivités ont à développer aussi ces ESS et de les accompagner. Au titre de la région, on pourrait aller plus loin. Hein. Maintenant, le département et la municipalité, on n'a pas de représentant là, mais ça pourrait être l'objet d'une autre discussion. Enfin, on s'aperçoit quand même que c'est un sujet qui est nouveau, on va dire, dans le paysage aujourd'hui. Enfin, pour des gens comme moi, en tout cas, voilà, c'est de la nouveauté. Et que ça mérite d'aller plus loin. Nicolas, peut-être tu voulais, sur ce sujet-là, en dire un mot ?
Non, je veux juste dire un truc sur les collectivités. En fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est quand même que tous ces collectifs, ils sont en avance sur les politiques publiques. Souvent, ce qu'ils sont en train d'inventer, ça n'existe pas dans les politiques publiques. Et donc, c'est souvent là où il y a du frottement. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent, ouais, mais alors moi, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, puis ça marche avec ça. C'est, voilà. Et ça ne rentre pas dans le cadre, le dispositif tel qu'il a été écrit. Et donc, là où il y a un intérêt à être en lien constant avec cette innovation sociale, parce que c'est de l'innovation sociale, c'est que ça vient nourrir les politiques publiques. Moi, par exemple, à vos idées, ça a fait émerger des tas de sujets qui n'existaient pas dans les cadres tels qu'on les a inventés. Et donc, les cadres, on les fait évoluer. Il y a des sujets qu'on ne prenait pas en considération hier, qu'aujourd'hui, on prend en considération parce que il y a de l'initiative citoyenne, il y a de l'innovation sociale. Ça, c'est quand même assez génial. Voilà, et il faut avoir la modestie quand on est du côté des collectivités de se dire... C'est pas mon boulot qui me pique, parce que parfois c'est le risque, hein. C'est quand même que l'élu se dise, finalement, ils sont, et dans les communes, ça existe, hein, ce que je vous raconte, ils font une ressourcerie, comment ça? C'est notre boulot, ça? C'est le boulot du syndicat? C'est, voilà. Non, c'est, là, il est en train de se réinventer quelque chose d'assez coopératif et partagé, et c'est extrêmement intéressant. Par contre, il faut qu'on soit à l'écoute de ce que chacun invente pour faire évoluer nos cadres, pour que ça rentre dedans. C'est parce qu'il y a des choses, elles ne rentrent pas. Voilà. À vos idées permet, par exemple, de financer en même temps une entreprise, une collectivité, une association, un collectif de citoyens. Il n'y a aucun dispositif qui permet de toucher cette diversité d'acteurs. Ça permet de financer de l'investissement et du fonctionnement. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça permet d'avoir un financement qu'on peut utiliser pendant 3 ans. En général, vous avez une durée qui est contrainte. Voilà. Donc ça, si on est arrivé à cette souplesse, c'est parce qu'on est à l'écoute de ce que les gens font. Et ils inventent. Ils inventent le monde de demain. Et ça, c'est nous, notre responsabilité, c'est d'emboîter le pas à cette innovation et pas le contraire. Voilà, parfois, ils essayent de tordre le cou du projet pour qu'il rentre dans le cadre. Moi, je crois qu'il faut tordre le cou des cadres pour que les projets rentrent. Voilà, c'est quand même pas tous les projets, parce qu'il y a des projets, je suis pas sûr que j'aurais envie de les soutenir, mais ça, c'est autre chose.
Et je crois que l'avis de Nicolas peut être intéressant parce qu'en tant que le sujet. Et abordé par Artefact depuis 10 ans. Donc, il y a 10 ans, quels étaient les interlocuteurs ?
Alors, moi, je suis arrivé en 2015 déjà. Donc, je ne vais pas prétendre à avoir l'historique complet. Les cofondateurs, Emmanuel Douda et Julien Cronier. Je pense que très certainement, Emmanuel Douda est venu frapper à la porte de la région avec son petit dossier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il vient de la Beauce, donc il a la tête dure. Et il a arraché quoi. Il a arraché. Et c'est une grosse force de travail. Donc forcément, il a embarqué le projet pendant, on va dire, 6 ou 7 années à bout portant. Après, il a commencé à faire le tuilage quoi. C'est là où il y a une intelligence qui s'est créée. Et ça, c'était plutôt rassurant, c'est que on a commencé à avoir une co-gérante. Donc on a élu une co-gérante. Donc il n'y avait plus un gérant, mais 2 gérants. Et là, récemment, on est passé à une co-gérance élargie, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes 4, ce qui va pouvoir permettre de travailler plus par territoire, sans non plus les rompre. Enfin, voilà, on va commencer à pouvoir... Il y a 10 ans, je pense que le truc, c'est que Emmanuel, il a dû y aller à la région. Je pense que le projet a dû être compris, mais maintenant, comment on fait? Comment ça marche? Pendant combien d'années? Comment on est soutenu? Enfin, voilà. Et je sais que ça a été peut-être effectivement avec 2-3 clapots, voire des vagues. Mais mine de rien, on discute toujours, on est ensemble, on se voit. Voilà, il y a des budgets qui sont débloqués, il y a des programmes qui se mettent en place. Enfin voilà, donc faut effectivement défendre ses idées. Enfin, je pense que c'est pareil. Quoi. Et il faut savoir aussi ne pas trop peut-être se brager rapidement sur des trucs. Enfin, voilà. C'est la vie en fait, hein, c'est du social.
Cédric.
Non, mais juste pour compléter, c'est là où peut être le danger de cette générosité dans certaines collectivités comme la région Centre. C'est-à-dire qu'on parlait de pérennité du modèle économique, mais tout dépend en effet du maintien de ces politiques. Nous, on l'a vu avec la ressourcerie, on a commencé en juin 2017, on avait prévu 4 contrats aidés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en juillet 2017, c'était le gel des contrats aidés. Donc là, d'un seul coup, on s'est dit, mais là, donc on avait eu nos financements à vos idées, on avait eu Leader. Ah ben oui, mais il y avait un bout de financement qui tombait complètement à l'eau. Et on a eu un petit moment de frayeur en se disant, bah ouais, mais du coup, nous, tout ce qu'on avait, voilà, on avait tout proportionné pour que ça s'équilibre. Et puis bon, voilà. Et alors, nous, notre chance, c'est qu'on a des recettes propres et qu'on avait été prudent là-dessus et qu'on s'était gardé une petite marge d'erreur. Et ce qui est important aussi quand on bénéficie de ces dispositifs, mais Charles l'a dit tout à l'heure, c'est de penser aux dispositifs qui peuvent suivre. Moi, je me souviens un petit peu, il y a des gens qui nous avaient dit « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas fait tel truc et tel truc ?» On s'est dit « Bon, on s'en garde un petit peu sous le coude, quoi. » Puis en regardant qu'en 2021, il y avait des majorités qui pouvaient changer, en se disant « Bon, ça, il faudra quand même qu'on le fasse avant pour être sûr. » Mais c'est vrai que la pérennité du modèle économique, elle est compliquée parce qu'on est quand même tributaire d'une volonté politique derrière si on bénéficie de ces financements. Voilà.
Bien. Ah, pardon. Ah, une question, une intervention, une remarque.
Bonjour Marion, j'ai travaillé très longtemps dans le milieu associatif et je suis aussi beaucoup bénévole. Et je voulais rebondir sur ça, ce que Charles disait tout à l'heure. On a quand même aujourd'hui la chance en région Centre d'avoir des politiques pour l'économie sociale et solidaire, notamment via le CAPASSO. Alors je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas à l'époque ça existait toujours. Ce qui permet aux associations d'avoir des subventions pour créer des postes et des CDI. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de le souligner et on a la chance parce que je pense que c'est l'une des dernières régions de France à faire ce genre de contrat aidé. Et c'est effectivement très bien parce que ça permet aux associations de créer une activité, enfin en tout cas de continuer son activité en embauchant quelqu'un. Par contre, effectivement, au niveau de la pérennité, c'est un financement qui n'est pas éternel. Alors ça a peut-être changé, mais moi à l'époque, quand j'étais salariée, on se tirait les cheveux régulièrement parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir continuer à rester en CDI, qui pour moi veut dire dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, pas CDD, enfin contrat à durée indéterminée, mais contrat à durée incertaine. C'est-à-dire que une fois que les politiques locales changent, on peut très bien finir par être licencié parce que économiquement la structure est pas capable de fonctionner avec un salarié. Mais les bénévoles peuvent faire fonctionner des structures associatives. Je connais plein de structures associatives qui ne fonctionnent sans salariés et qui font une économie locale qui n'est pas négligeable. Et il faut absolument que les collectivités territoriales et plus largement au niveau européen et mondial, on voit le travail qui est fourni par les bénévoles. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, à propos de la valorisation du bénévolat dans le modèle économique. Et j'aurais aimé que tu parles de pourquoi, Cédric, tu dis économie solidaire et non pas sociale. Parce que bon, c'est vrai que là, autour de la table, entre guillemets, qui est un banc, on n'a pas du tout de structure qui travaille à proprement parler dans le sanitaire et social. Mais dans le Blaisois, il existe des structures qui travaillent dans le social et ça aurait c'était bien de le souligner, notamment, on a parlé de l'agricole tout à l'heure, mais les jardins de Cocagne, pas très loin d'ici, on a les jardins du cœur, les régies de quartier, et à la SLD qui a aussi des chantiers avec des CDDI, donc des contrats à durée déterminée d'insertion, voilà. Bon, bref, voilà. Il existe plein de choses aussi au niveau social et je pense que la ressourcerie fait aussi partie du social, du tissu social. Et du coup, j'aurais aimé avoir ton avis.
Alors, pour finir, puisque on est contraint par le temps et par la lumière.
Mais en fait, tu viens de le dire toi-même. Mais c'est-à-dire que historiquement, dans la tête des gens, l'économie sociale, ça va être les mutuelles, ça va être en effet tout ce qui est sanitaire, etc. Et nous, on fait cette différence et on peut être une ressourcerie de l'économie sociale lorsqu'on est atelier ou chantier d'insertion. Et nous, ça n'a pas été notre choix. On a cherché plutôt à valoriser l'implication citoyenne et c'est pour ça qu'on préfère parler d'économie solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un cadre un peu global, mais on ne fait pas tous la même chose. Voilà, je pense que je ne fais pas tout à fait le même travail que le Crédit Agricole, qui est aussi solidaire, sociale, enfin je sais pas quoi, ou des mutuelles, ou voilà. Je ne suis ni une assurance, ni une banque, mais on fait partie, en tout cas, d'un point de vue législatif, du même secteur.
Merci, merci à vous tous et toutes, à vous toutes et tous d'ailleurs. Encore un beau échange et de beaux débats. Et aucune envie de conclure d'une certaine manière, si ce n'est que chacun d'entre vous, vous avez tiré à travers l'expression de vos différents projets, vous avez soulevé des questionnements qui concernent les champs politiques ou qui concernent aussi le champ des fonctionnements ou du développement ou des freins et des problématiques. Voilà. Peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus loin à l'invitation d'une de vos structures et de rassembler des gens. En tout cas, pour nous, le Festival de Vienne en Goguette, c'était encore une fois vraiment un plaisir d'accueillir autour de ce jardin des expériences et des envies citoyennes. Belle soirée à vous.